Les sentiers du monde. Une émission proposée par Nadia et Kadri Aga.
Réalisation Medjid Fares.
Amis du temps, bonsoir. Kadri Aga, bonsoir.
Bonsoir, Nadia.
Bien, je sais évidemment que nous allons avec vous voyager, mais où ?
Eh bien, ce soir, nous resterons sur le continent africain. Nous irons plus précisément en Éthiopie. En Éthiopie que la récente actualité n'a pas manqué de mettre au devant de la scène, et ce pour diverses raisons. La plus importante et la plus cruciale, si vous voulez, est celle de la famine qui, vous le savez, n'épargne pas pour l'instant le continent. Et surtout les États subsahariens, c'est-à-dire le Sahel. Toute cette région du Sahel qui part d'ouest en est,
oui,
direct à la frontière. Limitée au nord par la mer Rouge et à l'ouest par le Soudan, au sud par le Kenya et à l'est et au sud-est par la République de Djibouti et la République somalienne, l'Éthiopie est un État qui compte à peu près 25 millions d'âmes. L'Éthiopie, comme tous ses voisins, donc, je vous l'ai dit, connaît une crise grave qui est conséquente à la famine, et cela est dû à la sécheresse des récentes années.
Mais avant, la situation était moins dramatique.
Elle était moins dramatique, mais si vous voulez, on mangeait rarement à sa faim, oui, parce qu'il y a eu des années noires, plusieurs fois, plusieurs reprises, enfin, durant plusieurs décennies, il y a eu des périodes de sécheresse, surtout enfin, du temps de l'ancien système, du temps de l'empereur Haïlé Sélassié, il y a eu aussi des crises graves, notamment dues à cette sécheresse. Je vous rappelle que la capitale de l'Éthiopie, c'est Addis Abeba. Et Addis Abeba, c'est la capitale de l'Organisation de l'Unité Africaine. C'est comme ça que les gens connaissent beaucoup plus Addis Abeba. Et, il y a eu, bien sûr, je vous ai dit, des années noires de famine. Et la réforme agraire du système révolutionnaire, parce qu'il y a eu un soulèvement du système révolutionnaire, se heurte aux paysans qui sont hostiles à la collectivisation. Sont hostiles donc à ce système qui vient bouleverser pratiquement des millénaires d'agriculture archaïque.
Oui.
Et du jour au lendemain, avec, si vous voulez, un pouvoir de gens qui ont introduit une révolution qui est venue tout bouleverser, alors il y a eu quelques réticences et c'est très difficile, oui. Et alors, et en plus, ce qui a aggravé le cas, c'est qu'il y avait une absence de moyens tels que, il fallait pratiquement innover à chaque fois, inventer très peu d'argent, très peu de moyens.
Oui, alors quels sont les produits que l'on trouve sur le marché, sur les marchés ?
Eh bien, sur les marchés, vous avez les principaux produits, ont toujours été les produits habituels, donc les produits qui font l'Éthiopie, qui sont généralement le sorgho. C'est un pays producteur du millet, du ricin, du café, des pois chiches dans les Abyssins, donc les Éthiopiens. L'Éthiopie, c'est aussi l'Abyssinie, donc l'ex-royaume d'Abyssinie. Donc les pois chiches et les piments rouges. Alors, si vous voulez, les piments rouges et les pois chiches constituent une des bases de l'alimentation. Un des éléments de la base de l'alimentation. Alors, les produits sur les marchés sont proposés soit au troc, soit à la vente, donc l'échange. Et surtout aussi des briques de sel du désert. Donc le désert d'Érythrée, produit un désert de sel exceptionnel. Oui. Mais oui, c'est un immense miroir qui réfléchit à la fois la lumière et la chaleur. Un désert de sel, c'est, je crois, le plus grand désert de sel du monde. C'est une immense étendue saline. Et de là, bon, si vous voulez, les nomades, des caravanes, notamment les Dankali, qui est une ethnie particulière, les Dankali ramassent le sel et le ramènent sur... Donc ils le débitent en morceaux, en petits cubes, en briques et en petits cubes, et ils le vendent sur les marchés. Des caravanes viennent ramasser ce sel et vont le proposer ailleurs, comme je vous l'avais expliqué, donc, pour certains pays comme Tombouctou, oui. Et ou même dans les Himalayas. Et les marchés, si vous voulez, les marchés sont impressionnants. Ils sont pourquoi ? Parce qu'ils conservent leur expression la plus ancienne, la plus primitive. Et le plus impressionnant d'entre eux sont ceux de la région donc qui sont sur le plateau du Tigré, pratiquement, ou bien ceux qui sont à la frontière de ce qu'on appelle le territoire des Afars et des Issas, donc les territoires français. Donc, parce qu'il y a un endroit qui est pas loin de Djibouti, qui est encore pour colonie française. Donc c'est une petite enclave. Donc,
mais ils sont impressionnants, vous dites, importants aussi ?
Ils sont importants d'une part en fonction de ce qu'ils proposent, du nombre de gens qui les fréquentent, hein, des gens qui les fréquentent, et surtout, parce que ce sont des gigantesques marchés qui rassemblent pratiquement au minimum 10 000 personnes. Donc c'est énorme. Alors vous avez le marché de Dessier, le marché de Batier et le marché de Kumbulcha. Kumbulcha est un marché assez extraordinaire en soi. C'est surtout un marché de chameaux.
On y vend des chameaux.
Des chameaux, oui. On échange des chameaux. Et on rencontre une des tribus les plus farouches d'Afrique. Vraiment une tribu qui est restée encore très fruste et pratiquement assez susceptible quant à l'approche des étrangers. Et alors, c'est vraiment une des tribus les plus farouches du continent africain.
Et farouche envers les autres tribus
du pays aussi. Oui, tout le monde. Et cette tribu s'appelle les Dankali. Mmh. Donc les Dankali, le pays Dankali. Et on rencontre aussi les Galas, aussi, qui sont, mais un peu, peut-être plus abordables, hein, les Galas. Et ils viennent, c'est les Dankali et les Galas, traversent le désert une fois par semaine, donc pratiquement, ils font des centaines de kilomètres pour assister à ce marché et vendre. Donc, ils traversent tout le désert d'Assab, pour pouvoir vendre à Kumbulcha leurs chameaux, et en même temps donc ramener donc certains produits dont ils ont leurs besoins, et ils pratiquent donc un négoce hebdomadaire. Au-dessus des collines qui surplombent d'ailleurs le marché, il y a un truc impressionnant, quelque chose d'assez qui est là pour en quelque sorte rappeler l'ordre, quelque chose qui frappe dès qu'on arrive. Il y a une colline poussiéreuse qui domine toute cette immense esplanade où il y a plus de 10 000 personnes avec des chameaux, le bétail et tout, des buffles domestiques, des chèvres, puis la partie légumes négoce. Et bien, au-dessus de cette colline, il y a un immense gibet, donc des potences, qui rappelle que tuer ou voler mérite la mort immédiate par pendaison.
C'est radical.
Ah, c'est radical. Parce que, surtout dans ces régions, bon, si vous voulez, les gens ne s'embarrassaient pas, à un moment donné, de principe. Hein. Dès que on ne plaisait pas, bon, dès que vous piétinez pratiquement leurs principes à eux, mm-hmm. ils ne s'embarrassaient pas des principes collectifs. Alors, on vous tuait. Les Dankali ont une curieuse façon d'annoncer leur mariage. Ils ont pour coutume d'afficher sur le seuil de leur foyer des parties génitales émasculées.
Oui, mais alors il a fallu émasculer une personne.
Oui, mais souvent c'est des représentations. Je dis, mais à l'époque ça se faisait. Maintenant ils font des représentations. Ça veut dire que bon, il y a bientôt une fécondation, étant donné qu'il y a un mariage, il y a possibilité d'avoir des enfants. Et c'est unique pratiquement sur le territoire, c'est unique et c'est assez extraordinaire. Et pour toutes les tribus, le mariage imposé par le pouvoir politique précédemment, donc enfin le pouvoir du temps de l'ancien régime, donc l'ancien régime, le régime impérial du temps de Haïlé Sélassié, il y avait trois formes de mariage qui étaient admises. Alors il y avait le mariage religieux, qui était pratiquement indissoluble et qui était réservé uniquement aux nobles, hein, et aux membres du clergé. Mm-hmm.
Bon. Alors les autres,
oui, non,
il n'y avait pas de droit. Pas
mariage religieux. Alors puis il y avait un mariage civil. Civil avec 6 jours de festivités et à la clé donc de ce mariage un divorce d'un commun accord.
Mais
donc
c'est un divorce possible. Obligatoire?
Non, c'est-à-dire possible.
Ah, possible.
Un choix,
ah,
donc c'était permis.
Oui, oui, oui.
Mais ce divorce était établi d'un commun accord.
Oui, oui.
Ça, c'était pour le mariage civil. Et puis, il y avait aussi, ce qui est assez amusant en soi, l'union à laisser. Une union, un mariage à laisser, c'était une union sans célébration, donc on se mariait, avec un bail, donc comme... Oui, comme un bail locatif, oui. Un bail commercial avec un bail, et un salaire qui est donné par le conjoint à son épouse, à la mariée. Un salaire, il a payé pour être son épouse durant une partie, donc c'était un essai.
C'est assez inattendu.
Oui, c'est assez inattendu, c'était permis. Ça, c'était permis du temps, donc, de l'empereur. Bon, maintenant, c'est un mariage civil, hein, tout simplement. Enfin, les autorités actuelles essaient d'unifier, d'uniformiser, ma foi, les gens continuent à garder leurs traditions et leurs coutumes. L'Éthiopie est un des pays les plus pauvres du monde, et il l'est. C'est en revanche une des contrées du globe où la foi religieuse est des plus vives.
Ah bon?
Oui. La population compte environ, à peu près, donc grosso modo, 40% de chrétiens coptes. Enfin, je dis chrétiens coptes, je vais vous donner la signification, et qui sont monophysites. Le christianisme éthiopien, à son origine, était, lui, rattaché à l'église copte d'Alexandrie, parce qu'il y a des coptes en Égypte. Eh bien, le christianisme qui fut établi, donc pratiquement les coptes sont des descendants d'anciens Égyptiens et qui sont monophysites. C'est-à-dire, s'ils sont monophysites, ils ne considèrent qu'une mono, donc une seule, et physite nature, donc une seule nature dans le Christ. Vous comprenez? La notion de trinité, la notion trinitaire chrétienne n'existe pas pour les monophysites.
Oui.
Et le Christ disait aux hommes, je suis la parole. Je suis le Verbe. Hein? Il est le Fils, donc il est l'envoyé. Il a une forme physique charnelle et une forme spirituelle. Eux, non. Ils disent Dieu ou le Fils de Dieu ne peut pas être multiple. Il est un et unique à la fois. Enfin, il est un et multiple à la fois. Il ne peut pas être multiple, il ne peut pas être différencié en différentes... En ce sens, si vous voulez, ça rejoint d'une certaine manière la conception islamique.
Oui.
Dieu est unique.
Oui.
Dieu est unique et il est aussi multiple. Alors les monophysites considèrent la chose de cette manière. Bon. Le christianisme, lui, fut établi en Éthiopie vers à peu près 330 par un jeune chrétien de Tyr au Liban, donc la ville de Tyr, Tyr, Sidon, qui avait fait naufrage, donc il s'appelait Frumentus. Il avait fait naufrage en mer Rouge. Et il fut sacré par saint Athanase d'Alexandrie, un saint lui, qui était à l'époque le patriarche de l'église d'Alexandrie. Donc, pourquoi je dis l'église d'Alexandrie? Parce que c'était une église dissidente. donc de l'ancienne église. Mmh. Alors, il a été sacré évêque par saint Athanase et il pénétra donc le pays éthiopien par sa grande voie d'accès qui est l'Érythrée au nord, cette partie qui s'appelle l'Érythrée, qui était d'ailleurs jadis utilisée par les Égyptiens et notamment les envoyés de la reine Hatshepsut, la reine, la fameuse grande reine égyptienne qui s'habille en homme pour gouverner.
Oui, elle était pharaon, non ?
Oui, elle était pharaon. Oui, c'était un pharaon. C'est une femme pharaon. Et cette voie était utilisée par ces Égyptiens. C'était la grande voie d'accès du pays. Il y a eu une autre voie qui venait depuis la mer Rouge et qui était la route caravanière d'Aksum, la ville d'Aksum, la ville sainte d'Aksum, et qui sans doute, peut-être par cette voie d'ailleurs, c'est par cette voie que passa le culte arabique des Sabéens. Je vous expliquerai plus tard. Et d'ailleurs, c'est aussi cette voie que l'islam a utilisée. La voie caravanière d'Aksum pour pénétrer. C'est donc à ce moment-là, la réputation de ce pays, et surtout le pays, le pays était païen. Mm. Donc avant, il était païen, il avait des cultes, ou sabéens, de religion sabéenne. Je vous expliquerai donc. Alors, la réputation de ce pays, tout le monde a appris dans les livres d'histoire, entendu parler, pour le Moyen-Âge, on parlait d'un fameux pays du prêtre Jean, un pays chrétien, le royaume du prêtre Jean. Eh bien, on imaginait que c'est un pays légendaire, on n'a jamais pu déterminer, mais on imaginait que le pays du prêtre Jean, dans cette partie du monde, pouvait être l'Éthiopie. Et, de toute façon, cette Éthiopie avait pu être le Punt, le fameux Punt des Égyptiens, qui était aussi un pays idyllique, un pays d'où tout pouvait venir, d'où pratiquement la religiosité pouvait naître, dans le concept égyptien, le pays de Punt, qui était l'au-delà paradisiaque. C'était le pays de Punt. Où aussi, ça pouvait être l'Ophir du roi Salomon, l'Ophir que cite le roi Salomon. Mais l'Église s'est scindée, cette Église après s'est scindée plus loin, de la grande Église, enfin l'Église éthiopienne, s'est scindée de l'Église copte. Elle est devenue indépendante bien après, au XXe siècle, donc, de l'autorité du patriarche d'Alexandrie, et elle a établi sa capitale religieuse, donc le grand patriarche de l'église abyssine, et Addis Abeba. C'est arrivé en 46. Mais l'église copte en général, elle, s'est libérée de l'église byzantine, de l'église romaine, qui est devenue byzantine, bien avant, vers plutôt le 5e siècle, en 451, on l'a considéré comme hérétique par le concile de Chalcédoine. Bon. Les monophysites, donc je vous ai expliqué, étaient considérés comme hérétiques. C'était des gens qui ne voyaient qu'une seule nature dans le Christ. Oui. À un moment donné, au moment de la scission, pour pouvoir condamner les autres, on dit, bon, ce sont des hérétiques.
Oui. C'était facile.
Bon. Mais si vous voulez, cette église monophysite était considérée comme hérétique par ce concile en 451. Voilà en ce qui concerne donc pratiquement le christianisme éthiopien. Donc elle dépendait de ce patriarche d'Alexandrie. Et elle s'en est détachée donc en 46, donc ce siècle, en 1946. Et elle est depuis donc autonome. Alors, ça, c'est la partie chrétienne. Mais l'islam, ce qu'on ne sait pas, très peu de gens le savent, parce que du temps de l'empereur, il y avait certaines inégalités de droit, donc, entre les musulmans et les chrétiens. Les musulmans n'avaient pas la considération qu'avaient les chrétiens, parce que l'empereur était chrétien.
Ah bon.
Oui, l'islam compte autant de fidèles, il y a aussi 40% de musulmans en Éthiopie. Le reste de la population est composé en majorité de païens, enfin de ce qu'on peut appeler païens, des gens qui continuent à garder leur rythme, leur rituel primitif, leur religion primitive. Et il y a eu aussi une minorité juive. Une minorité juive, d'ailleurs récemment, il y a eu les Falachans ont effrayé la chronique en faisant cet exode massif vers la Palestine, donc la Palestine occupée. Aksum, donc pour en revenir à la chrétienté, Aksum est le plus grand centre religieux chrétien, donc c'est la ville sainte, le plus grand centre religieux chrétien de l'Abyssinie, de l'Éthiopie. C'est un lieu de couronnement. Donc c'est un lieu où des empereurs ont été couronnés. Donc tous les empereurs, jusqu'au dernier, tous ont été couronnés à Aksum parce que c'était la ville sainte. Les empereurs comme les rois, je vous avais expliqué, ils devaient justifier leur autorité par un pouvoir théocratique, c'est-à-dire que il fallait que Dieu ait voulu qu'il soit empereur ou roi. Alors on choisit une ville sainte, on reçoit le sacre religieux.
Alors, le dernier des empereurs étant chrétien, les précédents étaient tous chrétiens.
Tous chrétiens, oui. Bon, il y a eu avant d'autres empereurs qui n'étaient pas avant la chrétienté.
Oui, avant.
Bon, ils ont été sabés.
Oui, d'accord.
Bon, alors, à l'époque, le couronnement s'effectuait sur un trône antique de pierre qui remonte à l'époque païenne et qui est le mieux conservé parmi 25 autres qui sont attribués à 25 rois, aux 25 premiers rois d'Aksum qui étaient païens, donc à ces moments-là. Bon, de nombreuses ruines, de palais, de temples attestent de la puissance de ces rois, mais ces ruines n'ont pas été datées avec précision. On n'a pas pu établir une date précise. On a établi des dates approximatives, mais une date précise pour pouvoir différencier donc pratiquement les ruines entre elles et dire celle-ci a appartenu à tel roi ou elle s'est faite du temps de tel roi et tel autre roi. On sait que ça remonterait à peu près 4 siècles avant le christianisme, avant la naissance du Christ. Oui. Bon. Et il y a aussi des stèles gigantesques qui étaient probablement des monuments funéraires, donc autour d'Aksum, donc dans la ville sainte d'Aksum, dans les environs d'Aksum, et qui étaient donc des stèles funéraires, des monuments funéraires royaux. Bon, mais on ne sait pas. L'une d'elles mesure à peu près 21 mètres, certains disent 22, bon, mais c'est plus de 20 mètres, 21 mètres. Et elle est encore debout, c'est la seule qui est debout.
21 mètres de hauteur.
Ah, oui, une grosse stèle. Et elle montre une décoration d'influence sud-arabique. Et nous en venons. Et pas du tout égyptienne. Ouais. Parce que certains disaient que les obélisques égyptiens avaient leur origine du pays de Punt, puisqu'on a parlé de religiosité originaire de cette région du pays de Punt, donc du pays abyssin, et que c'est de là que on a élevé des stèles en forme d'obélisque. Non, absolument pas. Il y a beaucoup plus une influence sud-arabique et aucune relation à établir avec les obélisques égyptiens. Les influences sud-arabiques sont en effet manifestes dans la civilisation aksumite, parce que la région d'Aksum, et Aksum est surtout connue depuis Salomon, depuis le roi Salomon. Depuis que Salomon reçut, donc à Jérusalem, il a reçu la visite de Makeda, qui était la reine de Saba. Donc, on sait que l'Éthiopie est rentrée dans l'histoire à peu près à ce moment-là. On a parlé de l'Éthiopie, de l'Abyssinie, à ce moment-là, parce que, et en plus, bien avant, surtout bien avant la naissance du Christ, avec une civilisation en bonne partie sémitique, donc d'origine sémitique, qui l'apparente au royaume donc d'Arabie méridionale, l'Arabie du Sud, le royaume de Saba, hein, et le royaume d'Himyar. Bon, sur lesquels donc son empire, l'empire d'Aksum, a exercé une suzeraineté presque jusqu'au Xe siècle. Bon. Saba et Himyar donc sont des contrées de l'Arabie méridionale, de l'Arabie du Sud. Alors, bon, les Sabaoa étaient surtout célébrés dans l'Antiquité par ces aromates. Les encens et les aromates venaient de là. Les fameux parfums d'Arabie, hein, venaient d'ici. Les Sabéens étaient un peuple qui est très célèbre, voilà en quoi ils sont connus. C'est un peuple astrolâtre, c'est-à-dire qu'il adorait des astres. L'évolution des astres déterminait son concept, sa conception religieuse. Ses convictions religieuses étaient établies par l'évolution de la courbe céleste, pratiquement de tout ce qui peuple le ciel. Et ils avaient poussé une étude approfondie, donc, avec toutes les observations de toute cette cosmogonie. Et les Sabéens ont été cités par l'islam. Ils ont été cités et respectés par l'islam dans la plus haute antiquité. Bon. Et les Himyarites, donc ce sont les descendants de Himyar, qui était un puissant roi, monarque, légendaire pratiquement, eux ont atteint un très haut degré de civilisation. Surtout au premier siècle avant le christianisme. Leur capitale était Zafar, et leur ville principale, tenez-vous bien, Aden et Mascate.
Ah bon ?
Oui. Alors, c'était les ancêtres des Yéménites, des Yéménites actuels. Les inscriptions himyarites, surtout celles d'Aksum, n'ont pas été interprétées de manière suffisante. On ne sait pas encore. D'ailleurs, partout,
jusqu'à maintenant.
Même, si vous voulez, au Yémen, il reste des tas de pierres, il reste des tas de stèles de cette époque, avec des inscriptions qu'on n'a pas pu étudier à fond, approfondir. Et, si vous voulez, la reine de Saba, venait de cette région. L'Éthiopie, de toute façon, tout en adoptant au IVe siècle un christianisme originaire d'Égypte et de Syrie, s'est approprié des légendes anciennes, selon lesquelles ses souverains, tous les souverains éthiopiens, descendraient de Salomon par Ménélique Ier, qui était le fruit de l'union entre Salomon et la reine de Saba. Et Ménélique est né à Aksum. Notre légende affirme que l'arche d'alliance qui a été dérobée à Jérusalem, donc, aurait été apportée à Aksum. Ça, c'est une légende.
Oui.
Enfin, un tel mythe se moule admirablement donc, sur la culture sabéenne la plus ancienne d'Éthiopie. Donc, c'est-à-dire que cette époque était assez difficile à situer, pratiquement. Il y a une confusion. Est-ce que la reine de Saba, enfin les Sabéens, est-ce que ça serait la reine de Saba qui serait venue à Aksum? Et si c'est elle, c'est pas possible, parce que la rencontre entre la reine de Saba et Salomon s'est faite en 941, avant Jésus-Christ.
Oui, oui.
Et les preuves les plus anciennes de cette culture sabéenne remonteraient au 5e siècle avant Jésus-Christ. Bon. Il reste Toutefois, des stèles, toute une série de stèles funéraires, donc monolithiques, donc dans la plus haute remontée et de 21 mètres, dans celle dont je vous ai parlé. Mais elles n'ont pas encore révélé leur secret. Alors, de ce côté-là, on ne peut pas préciser sur ces stèles une narration possible qui pourrait nous dire effectivement que la reine de Saba est venue et telle. C'est pas possible. Oui. Alors, c'est ce que disent les Éthiopiens. Mais il y a une influence certaine. Pour revenir aux chrétiens, la fête religieuse la plus importante est celle de Timkat, en Éthiopie. C'est l'épiphanie.
C'est quoi l'épiphanie dans la chrétienté ?
Eh bien, l'épiphanie vient de épiphanéa, qui veut dire apparition. Non, c'est la fête de l'Église qui est célébrée le 6 janvier et qui rappelle l'apparition, la manifestation de Jésus, enfant, aux gentils, donc aux gens. Alors, bon, primitivement, cette fête était liée à celle de Noël, la naissance du... Bon, mais la naissance du Christ et l'adoration, si vous voulez, un peu à la naissance du Christ et même à l'adoration des rois mages.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire,
oui,
justement.
Pratiquement. Oui. Mais plus tard, elle fut liée à la commémoration du baptême du Christ. Le Timkat, donc l'épiphanie, est la fête la plus importante pour les chrétiens d'Éthiopie. Les cérémonies ont lieu donc dans toute l'Éthiopie, entre le 18 et le 19. Et ces cérémonies sont rythmées pratiquement par un rituel extraordinaire, un rituel assez impressionnant. Alors vous avez... on choisit donc surtout Aksum, alors Aksum étant la ville sainte par excellence, sur une immense esplanade, alors sous un vaste dé, donc une estrade avec une pratiquement une espèce de toiture en toile qu'on place comme ça, donc une tente, sous un vaste dé qui est entouré. Donc, pratiquement un dé en tissu brodé, c'est très très beau, de magnifiques tissus. Ce n'est pas de la bâche, ce sont des soieries. Ce sont des soieries. Alors vous avez le grand, l'archevêque, donc le plus grand prêtre de la région, qui est appelé aussi Abouna. Ça ne vient pas de l'arabe, mais c'est identique à l'arabe, parce que l'origine sémitique, qui veut dire aussi notre père, le père de tous, Abouna.
Oui, oui.
Donc, Abouna, qui est aussi appelé donc l'archevêque, donc Abouna, est entouré, lui, de notables et de, pratiquement, de nombreux oriflammes, qui sont jaunes, verts et rouges, des drapeaux tout autour. Et ce sont des drapeaux de régions religieuses, de localités. Chacun apporte son petit drapeau avec une broderie à la Vierge. Une broderie des... Alors, tous ces oriflammes flottants, l'archevêque Abouna préside à la cérémonie. Et la foule, elle, se presse autour de l'esplanade qui, elle, est vide. Et elle est réservée uniquement aux danses, plus tard, donc au moment où la cérémonie commence, aux danses, aux chœurs et les cortèges. Alors, vous avez quatre cortèges qui arrivent, qui se présentent en même temps, quatre files, sautillant et chantant des cantiques. Hein. Et ces quatre cortèges suivent les prêtres des quatre églises qui composent le diocèse d'Abyssinie, d'Éthiopie. Alors, vous avez des dignitaires qui sont vêtus de longues robes de soie brochées, qui sont abrités sous des ambrelles de velours.
Somptueux.
Ah oui, c'est très somptueux. Et beaucoup d'or. Beaucoup d'or et des enluminures. Alors, ces dignitaires, donc brodés donc, avec de l'or, de l'argent, des couleurs, toutes sortes de choses, et c'est magnifique. Alors, les dignitaires précèdent ces files, ces cortèges qui représentent chacune un diocèse. Alors, ils les précèdent en entourant les porteurs de tabot. Le tabot, ce sont les tables sacrées de la loi qui sont gravées sur de grosses tablettes de bois. Mais c'est en quelque sorte les tablettes qu'on voit ici sur lesquelles les enfants des écoles coraniques écrivaient des versets du Coran pour les apprendre. Alors c'est un peu la même présentation, et tout dépend bien sûr de l'église. Si c'est une petite église, elle a quelque chose qui ne représente pas grand, enfin qui n'est pas très très riche. Mais sinon, les tabots sont très bien peints, comme parfois ça ressemble à des icônes, mais il n'y a pas de représentation, il n'y a que des écritures. Alors, et donc ils entourent les porteurs de tabots, et chaque église, elle, transporte son tabot qui est recouvert d'un tapis brodé des insignes sacrés, hein, et posé sur la tête d'un gaillard qui, lui, ne la quittera pas durant des heures, et c'est lourd, sur la tête comme ça. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 24 heures. Il doit le tenir. C'est en quelque sorte une forme de pénitence.
Oui. Hein, bon.
Alors, le temps des cérémonies. On est, si vous voulez, par ce décorum, transporté des siècles et des siècles en arrière. Et surtout le vêtement. On a l'impression d'assister à une reconstitution historique, une fresque historique, ou alors comme si vous voyez le déroulement d'un film qui refait donc une partie de l'histoire ancienne. En fait, c'est ça. Les gens sont habillés d'une manière, des costumes qui remontent à plus de 2000 ans. Et les quatre notables, surtout les quatre notables, ne scient pas, ne bougent pas. Ils ont un visage sérieux, impassible. On dirait des statues. Ça veut dire des figures de cire. Et ils sont fiers et extatiques. On les choisit, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on les choisit pour ça. Eux, les quatre notables, ressemblent à quelque sorte des rois mages, puisque nous parlons d'épiphanie. Bon, il n'y en avait que trois de rois mages, là il y en a quatre, parce que le diocèse, s'il y avait eu 12 diocèses, vous savez ce que c'est un diocèse,
c'est une contrée
religieuse, administrée par un évêque. Alors, c'est le nombre de diocèses qui font le pays. Et donc, les diacres, eux, sont vêtus de blanc, tenant d'une main leur bâton de prière, et de l'autre, le sistre. Et ils s'avancent, vous savez, le sistre, c'est celui qui est utilisé pour sonner pratiquement. C'est un instrument. Et ils s'avancent devant la tribune officielle. L'un d'entre eux scande le pas sur un immense tambour de peau richement décoré. Alors, derrière eux, il y a un groupe de choristes qui est drapé de chamas qui sont immaculés. Enfin, les chamas, ce sont des cotonnades imprégnées de beurre rance et de poussière. C'est comme ça. Oui. Alors, celles-ci sont propres. Au départ, quand on les prépare, on doit les faire tremper dans du beurre rance. Alors, le chœur en donne des cantiques. Les cantiques, le tambour et les cantiques, la musique. Et ils avancent en dansant. Et cette danse de diacre, donc, évoque la démarche de David devant l'arche. Le tintement des sistres étincelants ajoute une note métallique à ce concert. Alors, et le rythme, le rythme de la danse s'accélère et de longues capes blanches, donc c'est chamas, donc c'est les longues capes blanches, se mettent à voler. Mmh. Et ça fait un effet extraordinaire. Elles virevoltent dans le soleil avec la lumière, parce qu'il y a toujours du soleil.
Bah oui.
Alors, la foule, elle, captivée, reprend en chœur les cantiques. Et ça donne un immense chœur, à peu près, je dis à peu près, presque identique à celui de Hardwar, quand avec le Kumbh Mela. Mais toute la foule, des milliers de fidèles qui se mettent à reprendre, tout le monde connaît les cantiques.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire,
connaît. Tout le monde les connaît. Oui, les gens sont profondément religieux, tout le monde connaît les textes religieux. Alors, la foule reprend les cantiques à partir de ce moment-là. Les visages, tous les visages sont dignes et inspirés, bien sûr. Il y a vous savez, le sacré qui est là. Je vous ai expliqué, les gens adhèrent facilement. Alors, l'Abuna, donc l'évêque, l'archevêque, le père, donc notre père, l'Abuna, lui clôture la première partie de la fête en se levant et en bénissant l'assemblée. Alors, à ce moment-là, tous les pèlerins, chacun va s'installer sur place, donc trouver un endroit pour la nuit, hein, autour de grands feux, et ils attendent la cérémonie du baptême annuel du lendemain matin. Dans un endroit qui s'appelle Makalé, une autre cité, dans l'ancienne église Mariam Sirion, qui a été reconstruite au XVIIe siècle, il y a un trésor de couronnes d'or incrustées de pierres précieuses et des manuscrits exceptionnels. Un trésor fabuleux, fabuleux. Vous savez, alors de temps en temps, le prêtre expose avec fierté tous ces bijoux, ce trésor. C'est fantastique. Mmh. Ah oui, oui, la piété est telle que les gens se sont dépouillés durant des siècles pour enrichir l'Église. Mmh. D'ailleurs, pour approcher ces trésors, les femmes sont jugées impures et ne sont même pas admises à pénétrer dans l'enceinte extérieure de cette église. À Marcos du Gojam, Gojam est une région, donc, et Marcos, donc Marc, l'église de Marc, Saint-Marc qui est pratiquement le père de l'église orthodoxe, en quelque sorte le chef de l'église orthodoxe. Le plafond de l'église, lui, est constellé de têtes d'anges qui sont étonnées, ces anges, complètement. C'est des constellations, et en fait, quand on regarde bien, ce sont des têtes d'anges. Les peintures, les enluminures dans les églises d'Abyssinie sont, je crois, les plus belles du monde. C'est assez impressionnant. Vous arrivez dans un endroit qui est pratiquement désert, où la région est pauvre, où les gens vont en haillons, et vous arrivez, vous rentrez dans ces églises, c'est le choc.
C'est la richesse.
C'est le choc. Ah oui, c'est vraiment la
richesse et beauté.
La richesse. Et en fait, c'est pour établir la grandeur de Dieu, la grandeur de cette foi, de cette religion, par rapport au reste du monde. Les hommes ne sont rien. Les hommes ne sont rien. Seul Dieu est grand, seul Dieu est riche. Voilà. C'est dans le concept ancien.
Oui.
Et ça remonte à autre chose. Alors, d'ailleurs, il y vit à Marcos du Cocham, qui est une église très riche et très belle, il y vit une communauté très, très, très pauvre. Une des plus pauvres même d'Éthiopie, très pauvre, avec un petit artisanat et surtout des poteries très archaïques faites à l'ancienne. Et on fait des coupes et des vases, mais surtout d'amusantes et de surprenantes statuettes qui sont cuites dans des fours primitifs. Alors, leur pâte est constituée de bouse, donc des excréments de buffle et de terre. Alors, mais il y a un parfum qui est très dur à supporter.
Ouais, sans doute.
Oui, parce que avec la cuisson et tout, c'est quelque chose. Et puis, les gens sont superstitieux dans cette région. Terriblement superstitieux.
C'est anti-religieux.
Oui, c'est anti-religieux. Et justement, c'est là, c'est certains paradoxes, certains syncrétismes un peu païens, un peu, surtout ces statuettes. Alors, les enfants, tous les enfants de ce village, de cette localité, portent sur eux une poupée, une petite poupée, si vous voulez, de grossière, avec des chiffons, et qui est envoûtée, hein, pour chasser pratiquement le mauvais sort, pour se protéger contre toute influence d'esprit maléfique. L'Éthiopie parle, je vous ai dit, puisqu'on parle de trucs sémitiques, l'Éthiopie parle des langues sémitiques. Hein, surtout les langues sémitiques. Alors, la langue la plus répandue est l'amharique. Amharique. Et, bon, certains font certaines analogies, comme ce sont des amitos, donc des amitos nilotiques, des gens amites, on pense qu'il y aurait une influence qui serait venue jusqu'ici, jusque par le Sahel, le sud. Bon. Alors, ils parlent l'amharique, qui est aussi une dénomination d'un parler touareg. Mais selon, tout dépend de la prononciation. Hein? Bon, mais c'est l'amharique qui parle. L'amharique, c'est la langue la plus parlée. Alors il y a le tigré aussi, qui est aussi une langue, et le tigrinia, qui ont aussi une importance aussi grande. Il faut signaler que toutes ces trois langages, sont donc d'origine, je le précise, d'origine sémitique et elles sont différentes des langues couchitiques qui sont parlées dans toute cette région, enfin les régions frontalières. Le couchitique est peut-être parlé aussi par les Somaliens, le nord du Kenya et aussi une partie du Soudan, toute cette partie des Nouba, des anciennes.
Tout ce qui entoure.
Tout ce qui entoure. Et ces gens ne parlent que des langues pures sémitiques. Et le couchitique, le pays de Couch, enfin les couchitiques, sont des gens. Certains linguistes, et notamment un des plus grands, Trombetti, a expliqué que l'origine linguistique du couchitique, donc, est babylonienne. Et si on se met à voir, l'origine aussi des sémites est aussi babylonienne, historiquement. Donc il y aurait des rapports analogiques. Bon. Mais l'Éthiopie, en dehors de la religion, en dehors de ça, c'est aussi le pays du Bahr Dar. Qui est le Nil bleu. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé du Nil de l'Égypte, le Nil bleu. Alors, Bahr, ça veut dire mer, donc comme les Arabes aussi disent Bahr Dar. Alors, la source qui est dite Sakala, hein, que les religieux ont considéré comme sacrée, des sacrés, donc le Nil qui est un ferment de vie,
qui a ramené
des cultures, des civilisations, qui était créateur de civilisations, qui a toujours été sacré du temps de la plus haute antiquité de l'Égypte, et était considéré sacré même par les chrétiens maintenant. Alors, donc, était sacré donc depuis des siècles. Alors, cette source est, elle, en amont du lac Tana. Le lac Tana qui est le plus grand lac de la région. À 2900 mètres d'altitude, cette source est à 2900 mètres d'altitude. Elle est à 150 kilomètres à peu près en amont du lac Tana. Et elle est, cette source, sur une terre consacrée, donc sanctifiée, consacrée par une église, l'église Saint-Michel du Guech. Donc il y a une église qui est établie à la source même du Nil, de ce Nil bleu. Elle couvre le lac Tana, lui qui couvre plus de, je vous dis c'est un des plus grands, il couvre plus de 3000 km². C'est immense. Alors le lac Tana est le château d'eau du Nil bleu. Alors le Nil bleu se jette sous le nom de Petit Abay, hein, Et il en ressort grand abaï. Grand petit, donc il ressort grand abaï. Sur ce lac, depuis la plus haute antiquité, jusqu'à présent, les Éthiopiens assurent leur transport avec des barques de papyrus. Donc, comme les anciens Égyptiens, avec des barques de papyrus tressées. Voilà. Et, une traversée, d'ailleurs, nulle personne ne peut traverser cette région sans s'exposer à des dangers. C'est une des régions les plus dangereuses de cette partie de l'Afrique. Une région sauvage. Et d'ailleurs dans la vallée du Dabous, qui est un des confluents du Nil, la tribu des Goumous, elle est hostile à tous les étrangers. Tous les étrangers à son ethnie. Il est rare, il faudrait être introduit pour pouvoir les approcher. Et les hommes, d'ailleurs, pour les hommes, il est valeureux de tuer en signe de virilité. On affirme sa virilité en tuant un étranger. Des musulmans, eux, les musulmans sont surtout concentrés sur la partie orientale, la partie qui est en bordure de la mer Rouge, donc en face de l'Arabie, pratiquement, et à la frontière somalienne. Mais aussi, dans la région, surtout, il y a une région qui est très chrétienne, ils sont un peu partout, mais ils sont le plus représentatifs dans ces régions-là. Alors, dans la région qui part d'Addis Abeba jusqu'à Dire Dawa, donc qui est à pratiquement près du territoire des Assas, le territoire français, donc, cette partie, on trouve de nombreux centres islamiques qui sont importants. D'ailleurs, vous avez une ville extraordinaire qui est la ville blanche de Harar. Harar, qui veut dire peut-être le pur. De cette manière, elle est étincelante de beauté. C'est une des plus belles villes, d'ailleurs, en dehors de Aksum, et une des plus belles villes d'Éthiopie. Et la ville de Harar vraiment est exceptionnelle dans sa beauté. Elle est dans un environnement poussiéreux, pratiquement, il n'y a rien autour, c'est désertique, c'est rien. Et elle est posée sur une couronne de remparts, comme ça, sur une colline. Elle est entourée de petits champs cultivés, quelques petits champs, enfin les gens de la ville cultivent leur truc, et des paillotes de couleur brune qui semblent pratiquement établir, faire une différence entre elles, la mettre sur un piédestal. Elle est sur une colline et les champs sont à sa base autour, comme si elle avait été élue pour intercéder entre les hommes humbles qui sont des petits et Dieu dans sa grandeur. Parce que elle a, à l'intérieur d'ailleurs, dans l'enceinte de cette ville, qui est une très très belle ville, il y a un admirable minaret qui est vraiment un des plus beaux minarets du monde musulman, un admirable minaret, le minaret de la mosquée de Jami, qui, elle, domine toute la vie de la cité, tout. Justement, cette mosquée est au centre même de la cité, un peu comme toutes ces cités moyenâgeuses, comme Gardaïa. Donc, elle contrôle, tout se fait autour de la mosquée. Oui, oui. C'est d'ailleurs à la mosquée que sont conclus les contrats, même au marché. Quand on décide un contrat, on se tape la main à la mosquée. On va à la mosquée taper la main. C'est assez extraordinaire. Enfin, il faut préciser que les premiers fidèles musulmans, pour préciser l'entrée de l'islam en Éthiopie, les premiers fidèles musulmans qui, eux, fuyaient la persécution des Quraïchites, à la Mecque, ont trouvé refuge chez l'empereur d'Aksum, chez l'empereur éthiopien. Il les a accueillis, le prophète de l'islam, lui, s'est réfugié à Médine, mais les fidèles, la plupart, d'ailleurs, c'est le prophète qui a envoyé des gens expliquer aux autres monothéistes, et notamment l'empereur le plus puissant de la religion, pas celui de Byzance, parce que celui de Byzance était, à ce moment-là, n'était pas tellement dans de bonnes grâces populaires. Alors, on envoyait vers cet empereur expliquer et solliciter son aide face à ces païens d'Islam. Et les relations étaient très très bonnes du vivant du prophète, et c'est du temps du calife Omar que les Arabes, un peu pour se protéger beaucoup plus tard, enfin que, si vous voulez, que les relations se sont dégradées, et les Arabes pour se protéger des incursions des pirates abyssins, parce que la flotte à ce moment-là, la flotte abyssine, donc la flotte éthiopienne, était aux mains de Grecs. Des Grecs, c'est eux qui pratiquement contrôlaient tout ça. Et ils allaient faire des razzias, pratiquement à Jeddah, souvent ils attaquaient Jeddah. Et alors, et un peu pour protéger leurs arrières et protéger leur ville sainte, que les Arabes ont dû pratiquement occuper les bases de ces pirates sur le territoire éthiopien et pratiquement leur fermer l'accès de la mer Rouge pour pouvoir leur contrôler. Et c'est à partir de ce moment-là que l'islam a commencé à s'installer en Abyssinie. Et c'est à partir de ce moment-là que commença la pénétration. Et puis, bon, elle s'est faite, il y a eu une occupation musulmane, pratiquement, qui n'a pas duré longtemps. Il y a eu une forte résistance chrétienne. Hein. Mais cette pénétration musulmane s'est faite sans heurts et sans bruit. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours, jusqu'à présent, considéré que l'Éthiopie était essentiellement peuplée de chrétiens. Ce qui était faux. Effectivement, c'était un royaume chrétien, mais ce n'était pas essentiellement occupé par des chrétiens. Elle est occupée en grande, donc de partie égale, en partie, si vous voulez, en nombre égal, oui, oui. De musulmans. Il y a 40% de musulmans, 40% de chrétiens, et 20%, donc, en grosse majorité de païens, oui, oui. Et quelques juifs. Les gens ont vécu en harmonie religieuse, oui. En harmonie religieuse. Vous savez, l'hostilité était beaucoup plus économique à l'égard de l'État, ou beaucoup plus des rapports pratiquement d'opposition politique qui étaient dus d'une part à cette division établie par le pouvoir impérial qu'il fallait, et surtout par l'occupation italienne, parce que l'Éthiopie, colonie italienne, l'empereur était dépossédé, et juste après, donc il est revenu au pouvoir. Juste avant sa mort. En fait, l'Éthiopie est un très très beau pays, et c'est un pays qui offre beaucoup. C'est un pays rude,
Oui, sans doute.
Et qui offre beaucoup beaucoup de variétés, Et il a, en quelque sorte, il forme une concentration de sites africains, de tous les sites qu'on peut trouver en Afrique. C'est un pays qui gagne à être connu.
Kadri Aga, merci et bonsoir.
Merci à vous.
Amis auditeurs, bonsoir et à la semaine prochaine. Oh,